Amis des radios, silence, bonjour. Nous sommes le 1er août, le mois d'août, et c'est mon mois anniversaire. Il est 10h36 sur Yaoundé. Au moment où j'enregistre cette émission, vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde, par Élise Mbok, depuis Yaoundé. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice inédit, parce qu'on va parler de trois pays africains. Et avant de commencer, peut-être un mot sur, vous savez, les GAFA, là. C'est Google, c'est qui le A, je ne sais plus, Amazon, Facebook, etc. Enfin, je regroupe WhatsApp, peut-être moins WhatsApp, Instagram, etc. Ce sont, on va dire en gros, les réseaux sociaux qui sont engagés dans une forme d'irresponsabilité juridique, sociale, éthique, morale, collective. Et il y a eu un incident ici, une sextape qui a circulé concernant un certain joueur, un petit jeune, hein, Clinton Njie, qui a été victime comme ça, je vais dire, ces trucs sordides, d'une sextape qui a donc fait le tour des réseaux sociaux. Et franchement, le petit jeune, il a été, c'est un footballeur, pas étonnant. Parce que le monde du foot est un monde assez sinueux. Et là, je veux dire, on ne peut pas comme ça. Les gens ne sont pas indignés. Ils ne sont pas indignés que ce genre de choses soient diffusées. Ils sont plutôt indignés de ce que quelqu'un a pu être surpris dans sa vie privée, dans ses libertés. Mais je veux dire, c'est incroyable. Alors, qui est responsable ici? Est-ce qu'on... Franchement, celui qui a envoyé, parce que les autres vont dire, ah ben non, ben nous, Twitter, etc. C'est pas nous qui postons, mais nous publions seulement. Mais entre-temps, ça tourne dans les réseaux sociaux de façon suffisamment toxique pour créer des problèmes à cet attaquant. Là, je ne sais pas si l'attaquant, à ce joueur... Et peut-être ainsi mettre fin à sa carrière. C'est du pur sordide. Je veux dire, maintenant, on ne tue plus les gens avec les flingues. Il y a plusieurs façons de faire. Dans cette civilisation du sordide et du morbide, complètement dégueulasse, du dégoût qui vous prend à la nausée. Et le politique est là, vous voyez, il regarde, parce qu'il y a une sorte de... La politique aujourd'hui, vous voyez, un peu menée par du grand banditisme, qui est aussi responsable. Donc, à partir de là, si la tête est pourrie, que voulez-vous? Dans l'irresponsabilité, j'ai voulu appeler ce flash l'éternel recommencement. Oui, l'éternel recommencement, parce que surtout ici au Cameroun, on est en plein dedans. Au Cameroun, on est bloqué aujourd'hui. Il se dit qu'au niveau des États-Unis, parce qu'à un moment donné, vous savez, nous, les Africains, on aime la palabre. Les choses peuvent durer indéfiniment et puis on est bien malhonnête pour promettre un dialogue qu'on ne fera pas et puis traîner les gens comme ça. Et bon, l'Amérique semble avoir posé un ultimatum au gouvernement camerounais pour lui dire c'est soit vous engagez un dialogue, de toute façon dialogue, mais on n'en est plus là maintenant parce que le gouvernement ne veut pas dialoguer avec les sécessionnistes qui demandent deux choses, l'une ou l'autre, soit le fédéralisme, soit la sécession, donc la déclaration sur le modèle soudan, on s'oriente vers le modèle soudanais d'une sécession d'un État amazonien en cours de création par la faute d'un président en fin de règne qui s'accroche au pouvoir de façon morbide. Je vais dire, toute honte bue, l'Africain, laissez tomber, on veut qu'on nous respecte. Quand on a des présidents comme ceci, le noir, l'immigré, ne peut être respecté nulle part parce que les modèles sont totalement calamiteux. Donc on a cette histoire-là, qu'est-ce que le Cameroun va faire? Il y avait une guerre civile larvée, c'est clair. La CAN, qui déjà a été annulée en 2019 parce que le Cameroun a été incapable de l'organiser, l'Algérie l'a fait, là c'est plus l'Algérie, l'Égypte, pardon, et là on demande... On a été interrompu hein, parce que l'Afrique, les bruits, vous pouvez pas trouver du calme dans ce pays et on s'étonne des gens qui réfléchissent pas, qui sont dans le bruit en permanence. C'est terrible. L'Afrique a besoin de se concentrer, mais bon, les dirigeants s'en foutent, hein, s'en foutent. Donc la CAN, après interruption, voilà, la CAN va peut-être avoir lieu en 2021 au Cameroun. C'est ce qu'ils disent. Alors, la CAF n'y croit plus trop. Elle a demandé cette fois-ci à l'Algérie de se tenir prête, parce que là-bas, les infrastructures sont prêtes, au cas où il y aurait encore ce qu'on appelait ici un glissement de date pour incapacité. Éternel recommencement. Les autorités se défendent. Non, le stade, ils prennent un exemple incroyable en disant que les stades sont prêts, les stades seront prêts, les stades seront prêts. Mais il n'y a pas que les stades dans la réalisation de la CAN ou dans la réalisation d'un événement comme celui-ci. Il y a tout l'environnement qui est là, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir, qui fait que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de propriété, il n'y a rien à offrir autre que le ballon rond. Le ballon rond, c'est l'occasion de découvrir un pays. Qu'est-ce que le Cameroun offre aux touristes qui viendront, ou plutôt aux fans qui viendront, de beau à voir autre que, je dis, une fois que le match est fini, il a commencé, on va rentrer dans les hôtels, et après les hôtels, il y a une vie, etc., etc. Alors, au lieu de commencer par le commencement, on fait un peu comme si c'est le stade qui... Mais le stade, c'est la fin du processus lorsqu'on a déjà fait tout le reste par ailleurs. Alors que là, on commence par le stade et puis le reste. Alors 2 ans pour faire les routes, mon Dieu, pour celui qui connaît le Cameroun, il faut venir voir. Éternel recommencement encore, toujours pour le Cameroun. Je vais terminer là parce que, alors là, il y a des scandales tous les jours. Moi, quand je suis arrivée ici, à chaque fois, je criais, il y avait pas, on coupait le cours, l'électricité. Oh, on a coupé l'électricité. Il n'y avait pas d'eau. Oh, il n'y a pas d'eau. J'étais scandalisée pour tout et je me demandais, mais comment les gens font pour tenir et ne pas être indignés? Mais en fait, ce gouvernement joue, il joue à la roulette russe et puis à l'usure de ses maîtres d'ailleurs. Penseur qui fait que quoi que vous fassiez, moi j'ai un voisin, j'étais pas là, je suis revenu, là sur énergie c'est encore reparti, ben la télé a explosé là-bas, ces gens ont déjà des moyens réduits, ils ont des gamins, c'est un jeune couple, si je vous dis ça vous prend à la gorge, et quand ce genre de gouvernement ne veut pas dialoguer pour la paix, parce que sans paix le développement, vous voyez un peu, c'est tout ça, c'est illusoire. Aujourd'hui, je suis comme les autres. Voilà, ça fait une semaine ici, dans où je suis, il n'y a pas d'eau courante. Et on va au puits, là, les gens puissent de l'eau. On regarde, les gens sont blasés. Et c'est vrai que ça fait qu'on a une situation assez floue au Cameroun où on a l'impression que la vie tourne, le calme plat. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas un tissu. L'économie n'est pas maillée, l'économie n'est pas lisible. Alors ça fait que cette. Porosité comme ça, je ne vais même pas appeler la porosité parce qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de filet. Il n'y a pas de filet, il n'y a pas de maille. Chacun se débrouille de son côté. Donc, étant dans la survie et la débrouille, ça ne se rattache pas à quelque chose qui peut vraiment s'écrouler. Vous voyez, comme en France ou dans les pays occidentaux, où vraiment la maille peut prendre des trous et se déchirer. Non, il n'y en a pas. Donc, le vide entretenant un autre vide, pourquoi pas, on est là. Quand vous arrivez ici à Yaoundé, vous dites, ben, il n'y a rien. Ben oui, il n'y a rien. Mais il y a tout qui ne marche pas. Et vous allez dans les campagnes, vous avez de l'eau, parce que vous avez des forages individuels. Vous êtes en ville, il n'y a pas d'eau parce que c'est de l'eau courante, ça doit passer par l'énergie, je ne sais pas qui doit pomper quoi, etc. Ça ne marche pas. éternel recommencement. On n'était plus là, on était sorti de ces situations-là dans les années 80-85. Aujourd'hui, encore que, bon, ben quand même, c'est pareil, ça bouge pas, ça bouge pas. Et quand on vous annonce un développement qui va arriver, quel développement économique, il n'y a pas de. Je veux dire, avant on disait il faut qu'il y ait les libertés fondamentales au niveau du politique pour que le pays décolle. C'est faux, la Chine a prouvé cela. La Chine a prouvé que c'est faux. En fait, si l'économie n'est pas maillée, il n'y a pas de développement, voilà. Et la politique même finit par s'écrouler. Et donc, c'est vraiment essentiel de former, de mailler une économie forte pour que les choses marchent. Par exemple, vous prenez le cas du Cameroun, parce que ça va nous permettre d'arriver alors à des choses positives, parce que l'Afrique, c'est pas que ça. Et puis le Cameroun, c'est vraiment l'un des derniers pays aujourd'hui africains, sur tous les plans. Vous avez au Cameroun, par exemple, une chaîne simple à tracer, vous n'avez pas de concessionnaire, enfin vous avez des concessionnaires qui évoluent. Hein. Vous prenez le marché de l'automobile, il est assez illisible parce que vous avez des circuits parallèles. Des gens, beaucoup de marchés d'occasion qui viennent de l'étranger, des voitures, pardon, de l'occasion, le marché de l'occasion, voilà, qui viennent de l'étranger. Et les concessionnaires qui sont là, dont on ne sait pas comment les voitures sont recyclées. En gros, les concessionnaires sont là pour livrer les voitures à l'État, les gros bolides. Et pour le reste, le commun des mortels, c'est l'occasion. Entre les deux, il n'y a aucune trace, il y a aucun maillage, aucun maillage. Donc voilà, déjà là, économiquement, ça montre que le Cameroun n'a pas de politique industrielle, c'est clair. Sans industrie, moi je me demande bien quel développement on peut avoir. Et ça montre toutes ces failles-là qui font que on ne sait pas ce que deviennent les véhicules commandés par l'État. Est-ce que ça passe aussi dans le marché de l'occasion? Laquelle occasion est même lorsqu'elle arrive au niveau de la douane, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Il n'y a pas de connexion. Et ces connexions-là entre les agents économique, ces connexions absentes font qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement ou de capillarité, comme on dit. Et ça ne. C'est dit, la mayonnaise ne prend pas. Ça tourne comme ça, vide sur place, ou alors chacun dans son coin et tourne en rond avec son petit trafic, lequel trafic on se retrouve aussi au niveau de l'État aujourd'hui, camerounais. Pas aujourd'hui, ça fait un moment qu'on nettoie toujours les fichiers des fonctionnaires fictifs. Un temps c'est 50 000, un temps c'est 20 000. Ça fait 20 ans que ça se fait de façon. On arrive comme ça, on le fait, et on fait un check-up, et puis on trouve qu'il y a toujours des fonctionnaires fictifs. La dernière opération en date, il y en avait 10 000. On a nettoyé les fichiers, on verra bien. Et à côté de cela, on apprend que même les concours pour entrer dans la fonction publique seraient plus ou moins assujettis à une somme d'argent à payer. C'est toute la déliquescence comme ça du système. Il n'y a plus de mots à dire pour le Cameroun. De toute façon, on verra. Là, on ne peut plus rien faire. On essaye de pousser, 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 pousser. C'est juste pour conscientiser. Mais au niveau des scandales, on n'en parle plus parce que là, la coupe est pleine. Et puis de toute façon, c'est le régime d'impunité, c'est le régime de la propagande. La rentrée scolaire arrive, la zone en guerre anglophone, est-ce qu'il y aura école ou pas? On nous dit que des réunions secrètes se tiennent pour qu'on pousse les élèves. Certains parents, on achètera pour qu'ils mettent leurs enfants à l'école, on leur donnera l'argent, des livres scolaires gratuits, etc. Mais tout ça aussi, ça, c'est de la poudre aux yeux parce que après les Amazoniens, comme on dit, les sécessionnistes iront attaquer ces écoles, et puis l'éternel recommencement, ça va toujours refaire ce que l'Afrique sait faire, du sur place. Sinon, sur place, non, c'est encore pire, on régresse. Parce qu'à un moment donné, en termes économiques, si vous restez sur place longtemps, ben vous régressez par rapport au temps, et par rapport à la productivité, et par rapport à la compétitivité internationale. Bon, on va passer dans un cercle, j'allais dire vertueux, mais entre les deux, on est au Libéria, là. On est au Libéria. Ta-ta-ta, surprise! Depuis un mois, George Weah est contesté. Vous savez, le grand amour entre les Libériens, les jeunes, qui ont porté George Weah au firmament, n'existe plus. Juste un an après son élection, ça ne va plus, rien ne va plus au Libéria. C'est l'article de AfricanReport.com qui parle du Libéria en des termes. J'ai pris des notes hein, parce que tout ce que j'ai entendu là, ça m'a étonné. Alors ils disent. Qu'une organisation qui s'appelle un groupe de citoyens s'est constitué, il s'appelle le Conseil des Patriotes, et ce conseil a décerné un carton jaune au président George Weah pour lui exprimer son mécontentement. Donc, apparemment, ce mécontentement aurait atteint un état critique. Pour dire, là je traduis l'anglais, fever pitch, je ne sais pas comment le dire, état critique, c'est-à-dire qu'on a un pic de mécontentement des jeunes et qui ont organisé cette marche qu'ils ont appelée Save the State pour dire déjà que poser un ultimatum au président George Weah pour qu'il réponde dans un mois, c'était il y a un mois, à leur sollicitation, à leur demande. L'article précise que c'est la plus grande manifestation depuis la fin de la guerre civile, donc c'est pour dire l'état de mécontentement des jeunes. Et ces jeunes demandent la libération de 20 de leurs comment on va dire, de leurs combattants, on va dire comme ça, patriotes, qui ont été enlevés par le gouvernement, par les forces de l'ordre. Et ils dénoncent aussi que lors de la manifestation, enfin, ils dénoncent qu'il y avait la présence des forces étrangères parmi les agents de sécurité, les maintiens de l'ordre. Bon, ça, c'était au niveau de la manifestation, de façon comme ça, je vais dire, l'ordre. Le mot d'ordre de la manifestation. L'article dit donc, bon, un an plus tard, ça chauffe, rien ne va plus, rien ne va plus. Pourquoi rien ne va plus? Pourquoi les jeunes ne sont pas contents? L'inflation est carrément pic, elle a son pic, elle a augmenté. Les prévisions de croissance ont été, comme on dit, réduites à la baisse fortement. Et le Fonds monétaire international estime que l'effectif pléthorique des fonctionnaires fait que ça plombe tout et l'économie ne peut pas bouger. Les jeunes, ils se sont trahis, d'autant qu'ils dénoncent un détournement massif des fonds publics à George Weah. Ils dénoncent le fait que le président serait pris comme ça par des goûts de luxe. Il y fait l'acquisition des grands buildings luxueux de la capitale. Je veux dire, on entend des choses, beaucoup d'autres choses. Bon, laissons tomber, c'est pareil qu'au Cameroun et partout ailleurs où vous savez, les gens se font élire sur la base, l'article appelle ça du grand standing, des fausses promesses électorales à la George Weah. Ça, c'est l'article qui le précise, le grand standing ou le grand standard. Le grand standard, c'est mieux. Le grand standard, des fausses promesses, un style comme ça qui permet de se faire élire à partir des fausses promesses les jeunes y croient, les pauvres, et puis après, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Le président George Weah a répondu comment? Il a répondu le jour de la manifestation, et depuis, je sais plus, coupure d'Internet, Facebook, tout ça, pour réduire la capacité d'organisation de ces jeunes. Et en plus, on a édicté une loi parce que ces jeunes exigeaient la transparence dans l'attribution de marchés publics, c'est plus d'une concession de nettoyage, de sécurité de l'aéroport par un groupe étranger. C'est toujours pareil. De toute façon, les Africains, ils ne savent rien faire. Enfin, les Africains nuls, ils font tout. Vous savez, c'est comme au Cameroun, hein, entre parenthèses. Tous ces stades-là sont des préfabriqués qui viennent d'Italie, d'ici, de là, et puis si on fait juste un assemblage, et malgré cela, on confie encore la réalisation à des groupes étrangers et la fabrication. George Weah, lui, il a dit carrément, c'est lui qui insulte le président en ce moment, qu'il ne croit pas qu'il va pouvoir se déplacer librement. En clair, vous insultez le président, on vous prend, on vous met au gnouf, au trou. Voilà, notre George Weah, moi ça m'étonne pas. Je vous ai parlé du monde du foot, un monde opaque, glauque, qui navigue dans les frontières, de la franc-maçonnerie. On a vu Georges Weah décorer le grand maître, je sais plus de quoi, là, de l'ordre de Malte, de qui, et puis il les a décorés en disant c'était si, comme on dit là-bas, c'est maître. Donc quand vous avez déjà vu cela, c'est tout juste après qu'il ait été élu, vous avez tout le reste, et puis ce qui arrive là, ces gens-là, c'est les loges maçonniques, c'est le fric. C'est tout fric, et puis les gens. Ils n'ont qu'à crever, ça, ça fait partie du processus capitaliste, de l'exploitation de l'homme par l'homme, comme on dit couramment. Mais ça, ces choses-là, on ne va plus revenir là-dessus. C'est un grand classique, le grand capital. Bon, mais on ne va pas tomber dans la dépression parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est le Nigeria. Voilà. Le Nigeria, c'est un pays qui est, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Entre parenthèses, je ne vous ai pas parlé de l'écho, la monnaie qui va remplacer le franc CFA dans la zone, dans la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est toute une histoire. Bon, laissons tomber, c'est encore le grand capital et la grande exploitation monétaire de l'Afrique, soumise déjà à toute cette exploitation de son économie, de ses matières premières, de son sous-sol, etc. Donc le Nigeria, ta-ta-ta, un monsieur, un entrepreneur, voilà, un industriel. Un industriel, comme il en existe très peu en Afrique. Parce que pas de politique industrielle, on vous parlera toujours des histoires comme l'agriculture. Oui, si bien l'État vient concurrencer les agriculteurs à faute d'idées comme au Cameroun, on vous parlera des petites choses, des séminaires, comme comment accompagner les entreprises. Très bien. Entre-temps, le chômage a explosé, il n'y a pas de politique industrielle, on ne développe aucun pays sans industrie. Le cas j'allais dire le Gabon. Du Nigeria au Gabon, c'est un scandale. Le ministre de l'écologie est un blanc britannique, naturalisé gabonais. C'est d'un ridicule total. Le Nigeria, monsieur Tchakouana, innocent, est donc celui qui est le premier qui est concessionnaire véritablement africain, 100% africain. C'est formidable. Il fabrique des voitures pour l'Afrique, en Afrique. Et quand on dit pour l'Afrique en Afrique, c'est au-delà du développement local. C'est-à-dire que les voitures qui sont fabriquées à l'Occident sont faites pour des routes, vous voyez, tout clean ici, c'est pas des routes, quoi. Si vous arrivez dans un type d'infrastructure absolument difficile à gérer. Alors, lorsqu'on ramène des voitures ici, on dit qu'on les tropicalise pour les adapter à l'environnement. Voilà, le mot-clé, l'environnement du développement. Écologique aussi, qui prend l'environnement en compte. Sa société s'appelle IVM. Il fabrique donc des voitures, tout est assemblé. En dehors du moteur et du châssis qui sont importés du Japon, quand même, c'est une marche hein, progressive. Tout le reste, c'est de la fabrication locale. Fabrication locale, qui pour lui, selon ce qu'il dit, là, l'article, c'est dans France 24. Hein, ces voitures reviennent moins chères, elles sont plus solides déjà, elles reviennent moins chères, 10 à 20% parce que tout simplement pas importées. Et ce qui est bien, c'est qu'il emploie, je crois, 1700 personnes comme ça, quelque chose comme ça. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il transforme le savoir-faire local, qui est souvent un savoir-faire diffus, acquis sur le tas, en un savoir-faire professionnel. Et que dans la même mouvance, il apporte une solution à la carence fondamentale de l'Afrique, c'est la formation professionnelle. Il ne suffit pas seulement d'avoir des diplômes, puisque n'ayant pas d'industrie, n'ayant pas d'économie, tel qu'on a essayé de dire, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été théorisé, il est difficile de sortir de l'école et de dire qu'on va avoir un emploi automatiquement. Non, ça va pas. Alors, même ces gens qui sortent de l'école, ils ont besoin d'être formés de façon plus pointue. Alors lui, non seulement il transforme, parce qu'il y a ici toute une ingénierie, je vais appeler ça, de terrain où vraiment la débrouille, les gens, ils dépendent des voitures incroyables. Donc, pourquoi ne pas transformer cela
en professionnalisme. Donc, il fait la formation des mécaniciens, des carrossiers, comment dire, ceux qui font la carrosserie, je sais pas, des carrossiers, de tous ceux qui rentrent en fait dans la chaîne de soudeurs, de la fabrication des véhicules, pour qu'on ait un personnel professionnalisé. Qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on voit des choses comme ça? C'est formidable. Alors lui, il précise très bien parce que les Nigérians, ils voient grand comme les Américains, qu'ils visent le marché africain, et pas seulement nigérian, avec ce modèle qui est alors 100% écolo, industriel, comment on va dire, économique dans le sens formation du capital humain, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais franchement, c'est superbe de voir qu'on réfléchit comme cela, que quelqu'un ne réfléchit pas seulement pour lui-même, mais qu'il réfléchit aussi avec les autres, peut-être pour les autres ou à travers les autres, mais c'est une formule. Voilà, ça là, qui a des effets d'entraînement. On travaille avec l'étranger pour ce qui nous manque. On adapte la production à l'environnement qu'on essaie de faire progresser dans le même temps. C'est un cercle vertueux formidable. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce qu'on le voit quelque part en photo avec Monsieur Dangote, qui est le roi du ciment aussi, un magnat du Nigeria, et qui va se lancer, on nous a dit aussi, dans la poissonnerie, mais là, faut voir avec la rupture, la chaîne du froid. Bon, je vais m'arrêter là sur cette note positive. Ça, c'était juste pour vous donner alors là-dessus le coup un panorama. De ce qui est en ce moment, c'est un modèle représentatif quoi, de ce qu'il y a de bien et de ce qu'il y a de moins bien. Le Cameroun dans la nasse, le Libéria qui semble maudit parce que voilà, ces gens qui viennent des fouteux là, quand il est rentré, George Weah, il a fait son cirque là pour plaire aux gens et puis finalement c'est un filou comme les autres, pardon du mot. J'en prends toute la responsabilité, c'est un affairiste, enlevant un filou, c'est un affairiste comme tous les autres. Ça vient de ce milieu-là, on a commencé par le sport, on finit par le sport, parce qu'aujourd'hui le sport est devenu politique, gangréné, et on a, je veux dire, un footballeur qui vient faire président de la République, moi j'y crois pas trop. Voilà. C'est aussi simple que cela, et il ne faut pas non plus tout mélanger, parce qu'après, par exemple, ce monsieur Innocent Tchakwana, je ne sais pas comment on l'appelait vraiment, Tchakwana, monsieur Innocent Tchakwana, il a commencé par faire dans la moto. Voyez, de la moto à l'automobile. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt. C'était Elise Mock depuis Yaoundé. Vous avez écouté Flash sur le monde. Bonne journée.